member of the family should die whilst in the shelter from contamination, put them outside. Remember to tag them first for identification purposes.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la musique adoucit les mœurs, la musique adoucit les mœurs comme chaque semaine à la même heure, le vendredi de 9 à 10 et rediffusion de l'émission le lendemain, le samedi de 14 à 15 heures, c'est sur Radio Air Libre. Pour vous présenter cette émission et son sommaire, Ben Webster Quartet en fond sonore avec How Long Has This Been Going On? La réponse, c'est presque 44 ans. La musique adoucit les mœurs, effectivement, depuis très longtemps déjà, vous propose chaque semaine un rendez-vous autour de la paix, de la non-violence, ce qui se décline de toutes les façons possibles et imaginables. Alors, parfois, on parle des grandes institutions militaires comme l'OTAN. Parfois, on parle d'armes conventionnelles ou non conventionnelles. On parle parfois aussi de l'ONU et des résolutions et des traités de l'ONU qui visent au désarmement et à la suppression de certains types d'armes, en tout cas. Dans certaines émissions, on va plutôt aborder les choses d'un point de vue, par exemple, juridique ou humanitaire. Dans d'autres, ce sera plutôt le point de vue géopolitique. On fait parfois des émissions qu'on pourrait qualifier d'historiques, comme on a fait toute une série pour le centième anniversaire de la Première Guerre mondiale, en abordant différents aspects de cette guerre. Quoi d'autre ? Également la non-violence dans la société, donc ce qu'on pourrait appeler les aspects civils de la non-violence, comme la lutte contre les violences conjugales, contre les armes légères dans la population. Par contre aussi l'éducation, la lutte pour l'éducation à la paix. Alors tout ça, ça se fait de quelle manière ? Ça se fait en chanson d'une part, et d'autre part à travers de l'analyse d'un certain nombre de textes et la comparaison avec notre grande expérience dans le domaine. Et en fait, quand je vous ai dit que c'était Ben Webster, je me rends compte que c'est un autre morceau qui passe en fond sonore. Mais ça ne fait rien. C'est Chet Baker en sextet. Alone, together. Eh bien oui, nous sommes ensemble. Tout en étant tout seul dans le studio. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, donc, la suite d'une note politique, de l'analyse d'une note politique qui est sortie autour de la guerre en Ukraine et qui est le fruit des réflexions de la plateforme Europe for Peace and Solidarity, dont font partie une série d'organisations dans la branche belge, en tout cas, de cette organisation. On y trouve entre autres des organisations comme la FGTB, ou alors la CNAPD, pour ne citer que ces deux-là, on rappellera qui a signé dans le courant de l'émission et même de la première de ces séquences. Et puis, on a parlé beaucoup le fait qu'il y avait ce barrage qui avait sauté ou qu'on a fait sauter en Ukraine. Les inondations, une vieille arme de guerre. C'est un article de Pascal Martin qui est paru dans Le Soir il y a environ un mois. Et qui était passé un peu inaperçu, alors je vais revenir sur ce sur ce texte, sur cet article, car il me semble que c'est un texte intéressant. D'autre part, en France, on fête les 50 ans d'alternative non violente créée à Lyon en 1973, et on verra ça dans le cours de cette émission, où il y aura aussi des chansons, et par exemple, dans les chansons qu'on va vous passer aujourd'hui, un des grands classiques de la chanson en anglais par un de ses principaux interprètes, à savoir Donovan. Le morceau était sur son album Catch the Wind et c'est Universal Soldier, qui n'est pas une chanson de Donovan, mais bien de Buffy Sainte-Marie. L'histoire, c'est de dire que, évidemment, si tant que les gens continueront à aller faire la guerre, ben, il y aura des gens pour déclencher les guerres et pour obliger ceux qui n'ont pas nécessairement envie d'y aller, mais qui se sont quand même obligés de le faire, d'y aller. Si vous m'avez bien suivi. Autrement dit, si personne n'allait à la guerre, ben la guerre finirait faute de combattants, pour le dire d'une manière peut-être un peu simpliste, mais qui a un fond de vérité. Et donc, on quitte Chet Baker et son sextet, et pas Ben Webster et son quartet, pour immédiatement commencer cette émission avec le soldat universel de Donovan, dans l'interprétation en tout cas de Donovan.
He's 5 foot 2. And he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Donovan, donc, avec ce soldat universel, qui est catholique, juif, athée, etc., etc., mais qui continue à aller se battre contre ses frères. En fond sonore, c'est une composition de Joseph Bayer, qui est mort en 1913, dit Puppenfee, autrement dit la fée poupée, ou la poupée fée, c'est comme vous voulez. Un enregistrement réalisé en 2002 par l'Orchestre symphonique de la radio slovaque sous la direction d'Andrew Moglerian, qui va nous tenir compagnie pour aborder le premier sujet de l'émission d'aujourd'hui. Et ce sujet, c'est la suite d'un document que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. C'était le 16 juin, très exactement, pour les précisions, et qui émane de la branche belge, en tout cas, dans la version que nous avons ici, de Europe for Peace and Solidarity. Europe for Peace and Solidarity, qui est né en Italie, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Désormais active dans plusieurs pays d'Europe, en Belgique, la plateforme se compose de quelques 65 organisations et est coordonnée par une dizaine d'entre elles, dont la FGTB, Beweging.net, la CNAPD, INTAL, le Mouvement de la Paix de Louvain, Pax Christi Vlaanderen, Vrede et Vredes Actie. Dans sa mobilisation pour la paix en Ukraine, la branche belge de la plateforme Europe for Peace and Solidarity synthétise ici ses recommandations en vue de les soumettre au débat public. Alors, on avait déjà abordé plusieurs aspects la fois passée, et il s'agit principalement de recommandations pour une paix juste et durable en Ukraine. Alors, le premier point qu'on avait abordé, c'était qu'il faut prioriser la sauvegarde de la vie et empêcher davantage de destruction. Ensuite, si mon otage tout veut bien partir, arrêter le cercle vicieux de la guerre, c'est-à-dire s'engager dans une diplomatie active pour l'instauration d'un cessez-le-feu et des pourparlers de paix. Troisièmement, reconnaître les causes et les implications de la guerre afin d'envisager une résolution pérenne du conflit. Et pour ça, il faut évidemment un peu gratter dans l'histoire récente et moins récente de cette région du monde. Quatrième point, lutter contre les armes nucléaires et ressusciter le régime de contrôle des armements. Et enfin, et on va commencer par cela aujourd'hui, identifier et reconnaître les intérêts de sécurité des belligérants avant de continuer. En septembre 2022, le président ukrainien Zelensky, dit la note, présente son Security Compact, construit en collaboration avec Anders Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l'OTAN. Il y réaffirme l'ambition de l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN et demande dans l'intervalle des garanties de sécurité juridiquement contraignantes pour l'Ukraine de la part d'une coalition de pays occidentaux. C'est les pays occidentaux qui doivent donner des garanties à l'Ukraine, vous m'avez bien compris. Ces garanties concernent tant des efforts d'investissement sur plusieurs décennies dans la base industrielle de défense de l'Ukraine que des transferts d'armes modulables, un renforcement des capacités de défense et de renseignement, des missions d'entraînement intensif et des exercices conjoints sous les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN. Si un certain nombre de ces choses semblent logiques, il est évident que du côté ukrainien, ils ont le feu au cul, donc ils ont les dents longues aussi. Et leurs demandes sont d'autant plus importantes, disons, et les attentes de la part des membres de l'OTAN, entre autres, et d'autres partenaires européens qui ne sont pas nécessairement membres de l'OTAN, parce qu'il y en a. Et il y a même des gens qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Suisse, qui pourrait être intégrée aussi dans les plans de l'Ukraine. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc, on a là, d'une part, et on peut le comprendre, puisqu'ils sont en état de guerre, et face à un ennemi quand même assez important, si pas un ennemi très important, possédant entre autres l'arme nucléaire. On peut comprendre évidemment l'impatience marquée par les autorités ukrainiennes et qui est symbolisée plus que réelle par les actions incessantes et les interpellations incessantes de son président. Voilà. L'élargissement continu de l'OTAN vers l'Est a toujours été présenté comme une problématique sécuritaire essentielle pour la Russie. Je reprends ici le document. La présence de l'OTAN en Ukraine et la perspective d'une adhésion du pays à l'Alliance ont toujours été fixées par elle, par la Russie donc, comme une ligne rouge. Et c'est pas récent et ça avait été marqué dans des accords qui ne sont plus respectés aujourd'hui. Bon. Les premières tractations diplomatiques au début de l'invasion russe de l'Ukraine en attestent, c'est une des raisons centrales qui explique l'invasion russe de l'Ukraine, donc l'extension à l'est de l'OTAN. Le point 4 de cette note rappelle que, donc c'était ce qu'on avait vu la fois passée, rappelle les velléités des pays de l'OTAN et de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et la conflictualité, puis la guerre qu'elles ont charriée. Pour la plateforme belge d'Europe for Peace and Solidarity, l'appartenance à une alliance militaire ne devrait pas être un principe unilatéral de souveraineté si elle affecte les intérêts manifestes de sécurité d'autres pays. Un statut de neutralité pour l'Ukraine, assorti de garanties de sécurité claires et juridiquement contraignantes, pourrait constituer une piste que l'Ukraine cesse d'être l'otage perpétuel des rivalités entre puissances. Alors on va reparler maintenant d'une organisation qu'on a mise dans le coin avec l'invasion russe en Ukraine, c'est-à-dire l'OSCE. Partant de ce constat, indique la note, il est impératif de prolonger les leçons de ce conflit. Il est primordial dans une perspective de sécurité, de stabilité et de paix de construire un nouveau système de sécurité pour l'ensemble du continent européen, Est et Ouest, et Centre. Une nouvelle architecture de sécurité collective et indivisible basé sur le principe manifestement observable que la sécurité ne peut pas être recherchée aux dépens des autres. La Russie est un voisin direct de l'Union européenne. La sécurité en Europe ne peut être réalisée qu'avec elle. Le seul forum où la sécurité et la coopération sont à l'ordre du jour est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, dont la Russie est également membre, il faut le rappeler. Investir dans ce forum pourrait être un premier pas important vers un nouveau système de sécurité en Europe. Bien comprendre ici, par rapport à ça, c'est que l'OSCE n'a pas pu empêcher le déclenchement du conflit en Ukraine, peut-être par manque de moyens, peut-être par manque de volonté politique de part et d'autre, de faire fonctionner cette organisation et de lui faire remplir un rôle important, si pas primordial, ce que proposent ici les membres de cette plateforme et qui pourrait être en tout cas une piste puisque l'organisation existe déjà aujourd'hui, même si elle a été mise en veilleux, par le déclenchement du conflit. La Belgique, l'Union européenne et l'OSCE, je reprends la note, doivent initier une nouvelle conférence sur la sécurité qui travaille à une architecture de sécurité différente pour l'Europe, avec des mesures de confiance, des accords de désarmement mutuel, des systèmes de vérification, dans la lignée de la conférence sur la sécurité et la coopération entre 1973 et 1975 qui a abouti à l'acte final d'Helsinki. Donc c'est un pas important, cet acte final d'Helsinki, pour la paix et la sécurité en Europe. Il faudrait aller rechercher ces documents, aller rechercher ces organisations et les remettre en selle, en quelque sorte. Alors, sixième point de cette note politique, manifester une solidarité concrète à l'égard des Ukrainiens. Il importe, écrit la note, de se tenir aux côtés des premières victimes de ce conflit, que sont les Ukrainiens. Le gouvernement belge doit renforcer son soutien financier non militaire à l'Ukraine, notamment sur le plan humanitaire et de la reconstruction. La Belgique doit soutenir un audit de la dette ukrainienne en vue de sa restructuration ou de son annulation, dans la perspective du déploiement de l'après-guerre, d'une transition écologique et de l'extension de sa protection sociale. Il doit, en outre, parce que s'il n'y a pas ça, ça va être la révolution ou ça va être l'implosion du pays. Ce qui est peut-être le but recherché d'ailleurs par la Russie, mais ça c'est encore un autre problème. L'Ukraine doit en outre, ou non, pardon, la Belgique doit en outre se conformer à son obligation d'accueil des Ukrainiens, des Russes et des Biélorusses qui en demandent l'asile, en ce compris les objecteurs de conscience. L'habitude, dans le cas des objecteurs de conscience, c'est de refuser en disant « Non, vous n'êtes pas des réfugiés politiques, et donc on vous remballe, vous n'avez qu'à aller vous battre contre nous. » On a vu ça avec la guerre dans l'ex-Yougoslavie, et on a ici le même problème avec, entre autres, les jeunes Russes qui fuient le pays pour échapper à la conscription. Et qui se trouvent vraiment dans une position très difficile, d'autant plus que leurs comptes en banque sont bloqués, comme les comptes des banques russes le sont, par le restant du monde occidental. Donc, tout cela doit se mettre en place, et de la même façon, il faut également accueillir toutes les personnes en demande d'asile qui ont droit à un accueil effectif. La Belgique doit en parallèle veiller à la défense des droits fondamentaux en Ukraine, y compris les droits sociaux et syndicaux. Toujours mis en question en période de guerre, comme vous le savez. Septième point de la note, faire le choix des investissements sociaux et environnementaux, c'est-à-dire stopper la course aux armements et l'augmentation vertigineuse des dépenses militaires. On n'a jamais dépensé autant d'argent pour faire la guerre et pour alimenter les conflits. Et ce n'est pas en ajoutant de l'huile sur le feu qu'on va éteindre l'incendie, bien entendu. À la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, il y a quelques années, les États membres de l'OTAN s'engagent, lors de leur sommet au Pays de Galles, à porter les dépenses militaires à au moins 2% du PIB. Le gouvernement belge était en affaire courante au moment de cette prise d'engagement, nous dit-on. Depuis lors, les budgets combinés ont augmenté de près de 20% pour atteindre 1051 milliards de dollars en 2022. Ce sont des chiffres donnés par l'OTAN. Dans la foulée de l'invasion russe, des augmentations considérables des budgets militaires des pays européens sont annoncées. La plupart des États membres de l'OTAN annoncent leurs ambitions d'atteindre effectivement la norme de l'OTAN. C'était d'abord une norme indicative, comme pour les salaires, et puis c'est devenu une norme obligatoire, sauf que pour les salaires, la norme est de 0%. Bon, d'augmentation. Et là, le fait de devoir s'engager pour au moins 2%, il faut dire que très peu de gens y arrivaient, à part la Grèce, mais c'est parce que son produit intérieur brut, par rapport à quoi ce montant est calculé, son produit intérieur brut avait fortement baissé ces dernières années, comme vous le savez, mais pas ses dépenses militaires. Pourtant, continue la note, le lien ne peut être fait entre l'insécurité ressentie vis-à-vis de l'invasion russe et l'augmentation des budgets militaires, ces derniers ne produisant leurs effets concrets que dans plusieurs années. De leur côté, les dépenses militaires russes ont d'abord marqué un recul avant de repartir à la hausse à partir de 2021. Pour 2023, la Russie prévoit de dépenser 84 milliards de dollars pour l'armée, soit une augmentation de 40%. Il est bien évident que cet argent, ça c'est entre nous, cet argent, il faut aller le chercher quelque part. Et donc, où va-t-on aller chercher de l'argent? On peut faire comme le principe de la râpe à fromage, comme on pratique parfois en Belgique, entre autres en Wallonie, c'est-à-dire qu'on enlève un peu partout. Ça, c'est une façon. Autre chose, c'est d'enlever plus, mais à des endroits bien ciblés. En général, comme on est depuis 40 ans ou plus dans des situations de crise économique et financière, eh bien, il n'y a plus grand-chose à aller faire comme économie, à moins de fermer ou de faire fonctionner nettement moins bien un certain nombre de services publics, par exemple, mais ça peut être dans le domaine de la sécurité, ça peut être dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc., etc. Et donc le grand danger de ces augmentations de budget militaire, c'est effectivement qu'on va aller détricoter d'autres secteurs qui en ont grandement besoin, pas d'être détricotés, mais d'être refinancés. Je pense au secteur de la santé dans un certain nombre de pays, et entre autres en Belgique. Mais c'est pire, par exemple, si vous regardez le système de santé au Royaume-Uni ou en Irlande, c'est pas rigolo du tout. Si on vous promet une opération d'urgence pour dans 4 ans, vous risquez de tomber en bas de la liste, dans la mesure où vous serez mort avant ça. Mais bon, donc un danger qui existe à ce niveau-là, et il faut donc, insiste la note, investir plutôt dans des investissements sociaux et environnementaux. Cette nouvelle course aux armements, continue la note, est exactement le contraire de ce qui devrait être fait pour viser la stabilité, la sécurité et la paix en Europe. Elle éloigne les possibilités d'une nouvelle architecture de sécurité sur le continent, seule à même d'éviter de nouvelles confrontations. En effet, en accumulant de la puissance pour dissuader toute agression potentielle, on augmente mécaniquement le risque de ces mesures prises par les uns, provoque des contre-mesures chez les autres, avec pour résultat qu'un supplément de puissance n'augmente finalement pas la sécurité et s'avère contre-productif en renforçant la défiance des pays voisins. Dans le cadre austéritaire, mon Dieu, le cadre austéritaire dans lequel nos pays se trouvent toujours, l'augmentation de ces dépenses militaires aura de nouvelles répercussions catastrophiques sur les budgets réellement nécessaires à la sécurité des individus et de la planète. Revenir sur ces augmentations des budgets militaires permettrait de dégager des dividendes de la paix qui pourraient être utilisés pour des investissements sociaux et environnementaux. Pour certains de ces investissements sont urgents, ces besoins sont urgents et vitaux. Vous voyez que la note est quand même assez précise, assez complète et aborde un ensemble d'angles d'approche et de problématiques. Ainsi, un autre aspect des guerres en général et celle en Ukraine en particulier, c'est la menace pour l'environnement. C'est sûr que si on fait sauter la moitié du pays, premièrement ça pollue un peu les sols et les airs. Et si on fait brûler des choses, comme des dépôts d'essence, eh bien l'empreinte carbone de ces guerres sont évidemment énormes. La guerre en Ukraine cause de graves dommages aux infrastructures, indique la note, ainsi qu'à l'environnement. Cette guerre aggrave les souffrances de la planète. Les sols sont fortement pollués par des équipements militaires, notamment par l'utilisation d'armes à l'uranium appauvri, avec de graves conséquences sur la santé et les écosystèmes. Et ces problèmes, ces conséquences, peuvent être ressentis des dizaines d'années après la guerre. C'est encore le cas dans des pays comme les suites des répercussions de l'Agent Orange, l'agent orange par les États-Unis au Vietnam, les largages de fonds de cale sur le Cambodge et le Laos pendant la guerre du Vietnam qui s'est terminée en 1975, et il y a encore toujours des munitions non explosées qui font des ravages, qui font des blessés et des amputés. Aujourd'hui. Et donc il faut absolument freiner le désastre environnemental. En outre, les forêts et les champs sont brûlés, ce qui entraîne des dommages importants pour la flore et la faune, et également le fait que on ne peut pas cultiver et récolter par exemple les champs qui sont minés. L'endommagement ou la destruction possible d'une installation nucléaire, dont la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, faut-il le rappeler, constitue une menace majeure avec des conséquences potentiellement apocalyptiques pour l'Ukraine, mais également pour le continent européen et la planète entière. Les Ukrainiens en sont bien conscients, puisqu'ils ont connu l'explosion de la centrale nucléaire qui se trouvait situé au nord de Kiev. Et cela il y a des années déjà. Et l'endroit est toujours pollué, bien entendu. La guerre génère également d'énormes émissions de gaz à effet de serre, j'en parlais il y a un instant, en raison de ces incendies et du déploiement à grande échelle d'avions de chasse et de véhicules militaires, qui consomment pas mal, hein, c'est plus qu'une deux chevaux. Les véhicules militaires représentent 5,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, on nous met en note que, à ce sujet, pour le moment, le rapportage des émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité militaire, donc temps, développement, essais, production d'armes, transport, stockage, utilisation, etc., ne sont pas obligatoires. Ils sont pourtant significatifs et sont des obstacles sérieux sur la voie des objectifs climatiques. Donc, on a tout à fait intérêt à faire la paix. D'un point de vue environnemental, c'est une évidence. Comme vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique prévoit une sortie progressive des combustibles fossiles. Cependant, de nouvelles infrastructures de GNL, gaz non liquéfié, je ne sais plus comment ça s'appelle, sont construites dans plusieurs pays, dont la Belgique. Celle-ci renforce considérablement notre dépendance à l'égard du gaz fossile. Outre les importations croissantes de gaz russe, le gaz de schiste américain est désormais acheminé en plus grande quantité, ce qui pèse lourdement sur l'environnement, parce que la production, même si elle s'est, si elle s'est améliorée dans le sens de polluer moins, continue à polluer largement les nappes phréatiques. Et donc c'est une bombe à retardement pour les États-Unis où on manque déjà d'eau dans beaucoup d'endroits, je pense à la Californie particulièrement, où les ressources en eau sont devenues une denrée rare. Et donc cela pèse, tout cela pèse lourdement évidemment sur l'environnement. D'un autre côté, des voix s'élèvent pour réclamer de nouveaux investissements dans l'énergie nucléaire, c'est le cas en Belgique. En France, on essaye de remettre en fonctionnement les centrales nucléaires. Il y avait la moitié qui était à l'arrêt il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui faisait aussi que il était à l'arrêt pour des temps plus importants que prévu. Cela faisait également l'obligation pour la France d'importer de l'électricité et éventuellement de l'électricité produite avec des énergies fossiles de pays voisins. Les objectifs du plan climat belge pourraient ne pas être atteints et la transition vers les énergies renouvelables est gravement menacée. Alors il y a 10 points, le dernier est une petite conclusion. Hein. Le point 9 qu'on aborde à présent... atténuer autant que possible l'impact de la guerre en Ukraine pour le Sud global. Autrement dit, ce qu'on appelait dans le temps les pays en voie de développement, ce qui n'est plus tout à fait le cas pour un certain nombre d'entre eux. Certains sont en voie de sous-développement depuis longtemps et d'autres ont fait leur petite place au soleil, parfois en vendant très cher du pétrole par exemple. La guerre en Ukraine a également un impact tragique sur les pays du Sud, nous dit la note, et en particulier sur le continent africain, très fortement dépendant des exportations céréalières de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que de la fluctuation des prix. Ça, c'est encore un autre problème, c'est le fait qu'un certain nombre de produits de première nécessité, et même le jus d'orange, sont cotés en bourse à Londres, non pas en fonction des besoins des populations, mais en fonction de spéculations sur la nourriture, ce que, personnellement, je trouve absolument scandaleux. La guerre russo-ukrainienne a en effet entraîné une flambée des prix de l'énergie et de certaines matières premières, ainsi qu'une forte inflation dans les pays occidentaux. Celle-ci a des répercussions directes dans de nombreux pays africains. L'insécurité alimentaire dans plusieurs États africains était déjà grave avant la guerre, en raison de la sécheresse, conditions météorologiques défavorables, la faible productivité, les conséquences du changement climatique et des répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19, dont ils ne sont pas encore remis. Le blocage des céréales rendait la situation encore plus périlleuse, menaçant des populations entières de famine. Alors l'Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de céréales, d'huile de tournesol et d'autres produits agricoles. À elles deux, la Russie et l'Ukraine représentent 30% de la production mondiale de blé et 80%, tenez-vous bien, de l'huile de tournesol. Dans l'ensemble, l'Afrique a importé 32% de ses importations totales de blé de la Fédération de Russie et de 12% de l'Ukraine entre 2018 et 2020. Donc ça nous fait quand même 50% à deux. Les chiffres varient selon l'État. Par exemple, la dépendance du blé provenant d'Ukraine et de Russie en 2021 était de presque 50% en Tanzanie, 60% pour le Sénégal, 70% pour l'Égypte et 90% pour la Somalie et la République du Congo. L'accord russo-ukrainien sur le déblocage des céréales, qui est survenu en août 2022, est la preuve de l'effectivité de la voie diplomatique, dit la note. Et cette voie doit être prolongée et élargie. Alors on arrive au dernier point, qui est peut-être le plus important en ce qui nous concerne. Travailler à la paix. Le travail à la paix, de manière plus générale, il est important de rappeler que la guerre ne se prévient pas avec des armes et la menace de l'usage de la violence, ni l'usage de la violence armée. La sécurité humaine et communautaire ne peut être visée de manière pérenne que si la paix est ancrée plus profondément dans les soubassements culturels de nos sociétés. La plateforme appelle donc, sur le plus long terme, à travailler de manière déterminée sur le programme d'action des Nations Unies pour une culture de paix fondée sur un développement économique et social durable, le respect des droits humains, l'égalité des genres, une représentation plus importante des femmes dans les mécanismes de gestion de conflits et la diplomatie, la solidarité et la collaboration. Et donc, par exemple, quand on parle des Nations Unies, il y a des documents qui existent, des recherches qui ont été faites, des programmes qui existent, qui peuvent être mis en application relativement rapidement, à condition d'avoir les budgets pour le faire. Mais faut-il absolument toujours augmenter les budgets de l'OTAN alors que les budgets de l'ONU sont en diminution, faute de donateurs et faute, entre autres, au retrait partiel du plus gros donateur qui sont les États-Unis. On a toujours dit que si les États-Unis avaient consacré à la paix l'argent qu'elles consacraient à la guerre, ça serait le paradis sur Terre. Ou presque. Les associations signataires, je vous rappelle quelques noms en tout cas. Je vous rappelle qu'il y avait 65 qui ont signé pour la branche belge en tout cas de Europe for Peace and Solidarity. Alors la FGTB, la CSC, donc les deux syndicats, Agir pour la paix, Under Europa, Attaque Bruxelles 2, Bewegung.net, la CNAPD, Diem 25, le Forum Nord-Sud, FOS, Grun Plus, Intal, Kate Colwitz, Vredes Collectif, Leuvense Vredesbeweging, le MCP, le MJS, le MOC, Pax Christi Vlaanderen, Vrede, Vredes Actie, Vriendschap Zonder Grenzen, Amitié Sans Frontières et Viva Salut. Une note qui était sortie le 14 juin, donc c'est assez récent. Je n'ai pas entendu beaucoup de suite ou de réaction à cette note, qui me semble pourtant un bon résumé, en tout cas, pour un plan d'action à mener par nos autorités. Mais on est peut-être en train de se chamailler sur d'autres choses au plus haut niveau et à vouloir réinstaller des centrales nucléaires et de l'électricité 100% nucléaire, à croire que certains ont des actions dans le domaine. Bien. Ceci étant dit, et fin polémique, vous êtes à l'écoute de la musique à 12 heures, c'est sur Radio Air Libre, c'est tous les vendredis de 9 à 10 heures, et l'émission est rediffusée le samedi de 14 à 15 heures après Africa Jama. Et avant l'histoire des luttes, sur Radio Air Libre, le 87,7 FM à Bruxelles, et vous pouvez également nous écouter en DAB+, Et vous pouvez bien sûr nous écouter également un peu partout dans le monde grâce à vos tablettes, ordinateurs et autres téléphones et applications qui sont utiles pour faire ça. On continue en chanson avec Georges Moussaki. Le premier disque que j'ai entendu de Georges Moussaki, que j'ai acquis d'ailleurs, c'était Bobino 70, et qui est toujours un album cher à mon cœur, sur lequel on trouve une chanson assez étonnante, avec un peu de, ou un peu beaucoup d'humour d'ailleurs, c'est Requiem pour n'importe qui, et c'est cette chanson-là qu'on va écouter, après avoir écouté en fond sonore en tout cas, dit Puppenfee de Joseph Beyer, depuis tout à l'heure. On écoute Georges Moustaki.
Il est mort comme du bois sec, ça pouvait être n'importe qui, un enfant de l'Andalousie, ou le frère du soldat chevêque. Il est mort, la guerre est finie, on lui a fait des funérailles, chacun retourne à son travail. Il est mort, nous sommes en vie. Il est mort comme un feu de paille, ça s'est passé très loin d'ici, c'est loin l'Afrique et loin l'Asie, les mercenaires et les GI. Il est mort de n'avoir su vivre quand il fallait vivre à genoux, noyé de sang, noyé de boue. La mort enfin l'a rendu libre. Il est mort comme du bois sec, ça pouvait être n'importe qui, le frère de Théodoraki ou l'enfant de Zorba le grec. Il est mort, je suis en exil et je meurs un peu avec lui. Chaque fois que tombe la nuit sur le soleil du mois d'avril. Il est mort, pitié pour ses cendres, ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour demander des comptes à rendre, mais les mots viennent malgré moi.
Alors ce coup-ci, c'est bien Ben Webster en fond sonore pour parler d'une organisation française assez importante. En tout cas, moi j'en ai entendu parler depuis 50 ans, puisqu'elle a été créée à Lyon en 1973 par Christian Delorme et Georges Didier. Christian Melon s'est joint un peu après à la jeune équipe, c'était au lendemain de mai 68 où fleurissait pléthore de publications à caractère politique. La plupart de ces publications ont disparu, mais ANV, Alternative Non Violente, est toujours vivant. C'est plus qu'un exploit, nous dit François Vaillant, qui a écrit l'article pour fêter ça. Et on va rappeler effectivement que on fait régulièrement appel depuis des années à des articles parus dans la version en ligne, en tout cas, de cette belle brochure, parce qu'elle existe aussi sous forme papier, peut-être un peu moins présente au point de vue papier ces dernières années, mais en tout cas une belle brochure avec de la substance, et chaque numéro est important. C'est pas un hebdomadaire, c'est pas un mensuel, je crois que c'est un trimestriel, et ça vaut la peine de d'aller voir un petit coup de ce côté-là. En 1973, écrit François Vaillant, la société de consommation battait déjà son plein, la guerre du Vietnam s'achevait, l'Amérique latine sombrait dans l'enfer des dictatures, la référence au marxisme était partout pour qui prônait la révolution, on était catalogué soit de facho, soit de gaucho, et donc à ce moment-là, ANV, Alternative Non Violente, apparaît. La lutte non violente des paysans du Larzac en était à sa deuxième année. Donc c'était l'histoire, il y avait un camp militaire sur le Larzac, c'est dans les Cévennes, c'est au-dessus sur un plateau. Plateau du Larzac où il y avait quelques paysans encore. Alors l'idée de l'État français, c'était, j'ai dit l'État français, République française évidemment, c'était de chasser les paysans, bon, qui... L'Arzac, c'est pas une terre la plus fertile, hein, donc c'est déjà pas facile de tenir une ferme là-dessus. Mais donc, l'idée, c'était de les chasser et de faire une plus grande base militaire. Et pendant des années, les paysans du Larzac, soutenus par le mouvement de la paix en France, avec des gens comme José Bové, par exemple, hein, qui vient de là. Il était paysan sur le Larzac avant de se lancer en politique. Et donc, il y a eu cette opposition, toujours entre les uns et les autres, un peu en jouant au chat et à la souris. Les habitants du Larzac, appuyés par de nombreux militants de la paix français et d'ailleurs également. Donc, quand... ANV paraît en 1973 et apparaît. On en est donc à la deuxième année de la lutte non violente des paysans du Larzac. Sa forme de résistance attirait une vague de nouveaux activistes, faisait tousser le vieux monde militant, interrogeait les médias. Cette vague découvrait la pertinence des propos de Thoreau et la cohérence des actions menées par Gandhi et Martin Luther King. Et donc, une revue comme ANV tombait à pic. Un faisceau de raisons explique l'étonnante longévité de cette revue illustrée, écrit François Vaillant. D'abord, elle a voulu explorer à l'aube de la non-violence, à l'aune, pardon, donc en prenant comme maître, à l'aune de la non-violence, les champs de la militarisation, mais aussi ceux de l'éducation, de la justice sociale, de la philosophie, des religions, etc. Ce en quoi ANV reste unique en son genre. Ensuite, l'équipe bénévole qui s'en occupe chaque trimestre est toujours parvenue à se renouveler. Enfin, la pérennité d'ANV est en grande partie due au soutien durable des abonnés. Et donc, François Vaillant clôture en disant merci à vous abonnés, ou à vous qui allez vous abonner peut-être à cette revue. Alors, revue française, bien entendu, mais le type de réflexion qui est porté dans les articles va évidemment au-delà de... Du nombrilisme français, disons, si j'ose dire comme ça, il y a toujours une portée universelle à un certain nombre de principes, comme la non-violence, bien entendu. Bien voilà mon Ben Webster qui se termine. Et on va écouter une chanson des amitiés franco-allemandes pour dire que ça peut marcher, même entre la Russie et l'Ukraine, demain. Si on applique peut-être cet exemple-là, Göttingen qui nous est chanté par, faut pas que je me trompe, qui nous est chanté par Camille Simeret.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes.
Mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen.
Pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne.
Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France. Hermann, Peter, Helga et Hans à Göttingen.
Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence à Göttingen.
Bien sûr, nous nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen.
Nous, nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire.
Mais nous les comprenons quand même, les enfants au long de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent.
Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen.
Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Que sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes.
Mon cœur verserait une larme
pour Göttingen,
pour Göttingen.
Camille Simeret et Sam Burguère avec cette chanson de Barbara qui date de 1965, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il fallait oser, et certains ont fait le pas effectivement, et ce fut entre autres le cas de général de Gaulle et de Adenauer, son équivalent côté allemand. Alors on va parler non, je vais dire, on va parler d'une autre guerre. En tout cas, on va écouter l'orchestre symphonique national d'Ukraine sous la direction de Théodore Kuchar pour cette version de la marche slave de Piotr Ilitch Tchaïkovski, ce qui va me permettre de parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé dans cette émission « La musique adoucit les mœurs au fil des ans ». Il s'agit des inondations, et c'est un article du journal Le Soir qui m'a tapé dans l'œil, là. Le journal Le Soir du 9 juin 2023, où Pascal Martin titré Histoire, double point, les inondations, une vieille arme de guerre. Il faisait référence, entre autres, à 1914. Alors, déclenchement d'inondations fait partie des moyens tactiques qui peuvent être déployés en temps de guerre, écrit-il. L'inondation de la plaine de l'Isère durant la Grande Guerre en est un exemple parfait. Alors, en nous, on rappelle des faits. En août 1914, l'armée belge n'a d'autre choix que de battre en retraite devant l'ennemi. Bon, ils étaient très peu nombreux, 80 000 hommes devant des centaines de milliers de soldats allemands. Donc l'armée belge résiste vaillamment, mais est obligée de battre en retraite. En dépit de la résistance des forts de Liège, fort de Loncin qui saute le 15 août 14. Alors l'armée belge se replie d'abord vers Anvers, puis vers Ostende pour échouer à l'extrémité nord-ouest du pays, le Westhoek, comme on appelle. La bataille de l'Isère fait rage et les pertes sont énormes. J'ai failli ne jamais exister grâce à cause de ces pertes, mais bon. Mon grand-père qui a été gravement blessé, qu'on a pensé mourir, qu'il allait mourir à un moment donné. Mais donc la bataille de l'Isère fait rage, et c'est, on parle là d'octobre 14. L'Alali semble proche pour la 4e armée allemande, lorsque la 4e armée allemande est stoppée net par les inondations déclenchées par l'armée belge. La méthode n'est pas neuve, écrit Pascal Martin. Depuis la fin du XVIe siècle, les inondations participent de la défense des villes assiégées. Ostende et Nieuport y ont eu recours plusieurs fois pour garder l'ennemi à distance de ses murs. Guillaume d'Orange a fait détruire les digues de mer pour résister à l'armée espagnole lors de la guerre de 80 ans, donc guerre qui a duré de 1568 à 1648. Au début de la Grande Guerre, les commandants militaires alliés n'ont pas oublié cette expérience passée et mesurent le profit qu'ils peuvent tirer de la terre noyée en polders flamands, situés, sont des terrains situés en dessous du niveau de la mer, par marée haute en tout cas. Dans la mise en œuvre des inondations, s'avère plus laborieuse que prévu et n'intervient que tardivement en raison des réticences du général français Ferdinand Foch à donner son feu vert tant que des possibilités de contre-offensive existent. L'armée belge est à deux doigts d'être encerclée lorsque la décision est enfin prise d'inonder la plaine de l'Isère en ouvrant les écluses. Et donc le danger, la crainte, c'était que l'armée allemande allait faire des manœuvres de contournement, que le front belge allait céder à l'un ou l'autre endroit et que de ce fait, l'armée ennemie pouvait les prendre à revers éventuellement. C'était le grand danger. Les Allemands qui sont arrivés jusqu'à Nieuport et Dixmude n'ont d'autre choix que de se retirer face à la montée des eaux. Et de ce fait, la ligne de front est stabilisée. C'est en fait un haut fait tactique, écrit Pascal Martin. Garder sous eau la terre flamande ne sera toutefois pas simple. L'opération impliquera la maîtrise de travaux, de canaux, par exemple, d'écluses et de pompes, parfois sous le feu de l'ennemi. Une compagnie de sapeurs pontonniers sera créée à cet effet en 1915, mais le jeu en vaudra la chandelle. En 1918, c'est encore en inondant la zone entre Elsendamme, c'est-à-dire Oost-Vleteren, et la frontière française que l'offensive allemande sera arrêtée alors qu'elle menace les positions belges au sud. Donc en 1918, début 1918, il y a encore une fameuse offensive. Ils n'ont à certains endroits jamais été aussi loin. Et puis après, ils devront capituler suite entre autres à la révolution qui s'était déclenchée à Berlin. Les inondations sont ainsi entrées dans l'histoire de la Belgique comme un haut fait tactique, écrit Pascal Martin, mais leur déclenchement tardif, tenu pour responsable de la mort de nombreux hommes, alimentera longtemps la controverse. Le XXe siècle est fécond en opérations du même genre. En 1938, au début de la seconde guerre sino-japonaise, le nationaliste chinois Chiang Kai-shek fait ouvrir les digues du fleuve jaune près de Chengdu. Les eaux inondent le Henan, l'Anhui et le Yangtze. Des milliers de villages sont détruits, des millions d'habitants se retrouvent sans abri. Un décompte fait après-guerre par les nationalistes fixera à 800 000 le nombre de Chinois noyés. Les terres inondées resteront inexploitables. On parle du plus grand désastre écologique militaire de l'histoire. Et en 1993, le dictateur irakien Saddam Hussein fait détourner le Tigre et le Euphrate d'une zone humide du sud de l'Irak, connue sous le nom de Marais de Mésopotamie, pour en finir avec les insurgés chiites qui ont pris le maquis. Bien, on arrive à la fin de cette émission, et pas à la fin de mon texte, je le reprendrai la semaine prochaine dans la nouvelle version de l'émission « La musique adoucit les mœurs » que vous étiez en train d'écouter et qui va bientôt laisser la place à la suite des programmes de Radio Air Libre. À la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. C'est sur Radio Air Libre.